Bonjour à tous et à toutes. Bien, alors on va continuer un tout petit peu dans les délires. Et j'ai oublié de vous dire lors de la dernière vidéo un petit truc tout bête, mais que vous allez voir qu'il va prendre son importance avec le fil du temps. Enfin, quand je dis oui. Je vous avais dit qu'on était sur un tambour avec des incarnations, etc., etc., etc. Hein, d'accord? Alors, l'idée, c'est de se dire, bah oui, mais au fait, on pourrait avoir la question. C'est qui détermine que mon incarnation c'est celle-là, puis que celle-là c'était le siècle passé, puis que celle-là c'était... Alors je veux dire, c'est très simple. J'aime, c'est pour ça que d'une certaine manière, depuis un temps certain, je souris un peu de l'astrologie. Alors viens, alors là... Bon, je vais vous donner une raison, on va dire logique, qui est aussi con que ça. Vous savez que le zodiaque est coupé, enfin disons que vous avez un début d'année et un fin d'année, hein, avec des, on va dire, alors je vous avais dit que par exemple, si on démarre, officiellement, enfin moi je connais pas l'astrologie parce que comme je vous disais, je sais pas quand commencent les signes et finissent les signes, mais globalement, on va dire 21, d'accord? Alors, ici, on a 21-12. Ici, on a 21-3. Ici, on a 21-6. Et ici, on a 21-9. Globalement, parce que on a le droit à un calendrier qui est faux, de toute façon. Hein. Pourquoi février n'a pas beaucoup de jours, alors qu'il y en a d'autres, ils ont 31, puis d'autres, ils en ont 30, etc. C'est-à-dire que l'Église, par définition, a trafiqué le calendrier, et c'est pour ça que, de temps en temps, on est obligé de refaire des années bissextiles, parce que ça tombe pas tout à fait juste. Mais ça, c'est encore une autre raison de pourquoi ça tombe pas juste. Directement, on devrait avoir 360 jours dans l'année et pas 365 un quart. Pourquoi? Parce que bah, dans l'expérience involutive, on a fait les cons. Et bon, bah, enfin bref. Ceci, quand vous passez de 365 jours, alors imaginez, hein, parce que là, vous allez comprendre que le fait que Terre-Mère se réaligne et se remette à zéro, ça va faire des choses à zéro. Hein. Mais pour l'instant, on ne voit que les choses séparées. Alors imaginez que vous avez le calendrier d'aujourd'hui, on dit voilà, 365, 25. 365 jours, 25, et on vous divise ça en 365 parties, 25. Parce que bah, la Terre, c'est apparemment ce qu'elle fait. Mais en vérité, on est basé sur 360. À l'origine, on est sur 360. Donc, ce qui veut dire que si on a plus de jours, plus de jours que prévu, quand je te dis midi, bah t'es pas à midi. Si je me mets ici à zéro, je peux comprendre que si je suis à 180. Mais si ici je me mets à zéro, eh ben là je ne serai pas à 180. D'accord? Donc ici, bon allez, admettons, on va dire qu'il y a 6 jours, je serai à 183. Donc j'ai un blême. Parce que dans mon calendrier, j'ai un 21, 21, 21. Alors, comment qu'on fait, hein? Alors, venir, c'est encore un truc de con, de fou. Mais bon, j'aime bien. Non, mais c'est vraiment, je trouve ça super. Alors, en fait, le solstice ici, solstice, ouais, voilà. Le solstice, le 21-12, puis on dit que le petit Jésus, il est né dans la nuit du 24 au 25. Mais d'accord. Bah oui, mais ça fait 3 jours après. Hein. On a 3 jours. Donc on se prend 3 jours dans les dents. Parce que moi, voilà. Hein, on se prend 3 jours dans les dents. Donc quelque part, si tu passes par rapport au centre, tu vois déjà que tu es à 11h59 ou 58 ou 57, mais t'es pas à midi. Hein. D'accord. Alors, bien évidemment, pour les cathos, l'année a commencé, enfin, je veux dire, l'année pour eux, quelque part, ils disent, bon, c'est quand le petit Jésus, il est arrivé. Hein. Alors, vous imaginez bien qu'ici, quand on fait un truc comme ça, quand on dit, il y a une naissance, c'est 9 mois. Pourquoi 9 mois? Parce qu'ici, il y en a 3, il y en a 6, et il y en a 9. D'accord. Alors, pour que le petit Jésus, il naisse là, C'est quand qu'il a fallu que papa il bricole avec maman. Enfin, je dis ça comme ça. Bah, vous remontez, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 21 mars. C'est quoi 21 mars? C'est la Pâque. Vous savez les trucs, les œufs qu'il faut trouver quelque part. Non, mais c'est pour vous dire. Donc, quand Jésus il a été du côté de Jérusalem et dit, bon, c'est la Pâque, je vais leur montrer qu'en 3 jours, on va reconstruire le temple et tout, c'est bien à la Pâque qu'il est pensé quand même du côté de la crucifixion, petit. Hein, parce que ça correspondait, on va inséminer. Hein. D'accord? Parce que lui, pour pouvoir arriver, on va dire, là, il a fallu qu'il soit inséminé là. Hein. Alors, je viens de dire, mais pourquoi il a été inséminé là? Eh ben voilà, je viens de dire à Laurent, là, quand même, là, hein. Ben ici, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et vous avez le petit qui débarque. C'est-à-dire qu'on est parti de l'antimatière. L'antimatière a construit un petit truc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les spermatozoïdes, avec l'œuf, là, ils s'éclatent. Il y a un début de construction de quelque chose. On est d'accord? Il y a un début de construction, et puis bah, après, ça commence à en prendre la partie. Hein, puis après, on va voir quoi? Bah, on va voir que pendant cette période-là, là, je vous donne des cours un peu généraux. Là, à partir de cette période-là, de toute cette période-là, vous avez votre âme, c'est-à-dire en fait la partie plasmatique, la nounou, elle est là pour aider l'esprit de dire, bah mon coco, t'es dehors, bah maintenant, là, quand t'es là, eh ben, tu vas rentrer dedans, enfin tu vas rentrer dedans définitivement à l'intérieur du bocal, parce qu'avant, bah, à un moment, elle était juste, voilà, alors le foetus se développait sous le regard bienveillant de l'homme, qui est l'intermédiaire, enfin qui était, on va dire, qui est l'enrobage de l'esprit, hein, du soi supérieur. Et puis là, en fait, vous avez le foetus qui rentre là-dedans, puis il va commencer à jouer au foot. Hein. C'est-à-dire que votre étincelle d'esprit ne pourra pas rentrer dans le foetus, entre guillemets, pendant toute cette période-là, parce qu'en fait, il n'est pas suffisamment fini. 0, 0, 0. Donc, à partir de ce moment-là, l'étincelle d'esprit peut rentrer dans la carcasse, et il est dedans. Comprenez le truc? La musique, elle est simple. Quand c'est expliqué avec le plombier, c'est hyper simple. Bon. Donc, déjà, on voit qu'il faut 9 mois. Il faut 9 mois, c'est-à-dire 3 fois 1, c'est-à-dire 1, 1 et 1, pour qu'on puisse voir le bébé physiquement. Mais pendant tout ce temps-là, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une idée. C'est-à-dire que quelque part, papa, il a commencé à draguer maman, là. Il sentait qu'il y avait de la vibration, que ça faisait du bien. Hein, pour que ça tombe au bon moment. Alors là, bon, je vous fais tomber sur les solstices et les skinox, c'est juste pour vous dire que notre ami Jésus, il n'est pas arrivé par hasard. Hein. Ça correspond à des cycles bien précis de ternaire par rapport au soleil. D'accord? Jésus, il n'est pas arrivé au mois de juillet. Hein. Et voilà, bon, c'est juste pour vous éclairer un tout petit peu. Donc, on a nos amis, les cathos, qui se sont dit, voilà, Jésus, c'est le petit Jésus, hein, comme on dit dans la crèche ici, hein, voilà, le 25, 25-12. Donc, entre le 21 et le 25, on dit, bon, 21, 22, 23, 24, voilà, bon, on vous fout 3 jours dans les dents. Mais les 3 jours, ça correspond déjà à un petit problème de décalage. Et puis, ben, forcément, après, il y a eu des remises en question avec tout ça. Alors, je ne sais plus, grégorien, mais je pense que c'était du temps de l'Inquisition, 1500, un truc comme ça, parce qu'il y avait plein de calendriers avant. Il n'y a pas le calendrier, là. Si vous venez en l'an 600, c'était pas le calendrier qu'on avait aujourd'hui. Hein. Donc, c'est un calendrier qui est venu que beaucoup plus tard. Et puis, pourquoi, nous, on fête l'an 1er janvier? Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que ici, par définition, on est au mois de décembre, et puis il est encore au mois de décembre, mais maintenant on est en janvier. Mais pourquoi on n'aura pas commencé le 1er janvier au 21-12? Donc vous comprenez bien que ici, on a déjà une falsification déjà par rapport à la venue du petit Jésus, mais en plus on nous a rebalancé une semaine de plus. Une semaine. 25 et 7. Alors il est supposé être né le 24 au soir, entre le 24 et le 25. Alors vous mettez le 25 toutes les journées, le 26 toutes les journées, le 27, le 28, le 29, le 30, le 31. Pof, 7 jours. C'est pas, ça ne vous chagrine pas là, 7 jours. Parce que vous êtes en B7. Nous sommes en B7. Donc il fallait attendre un petit tour d'horloge pour être sûr d'être bien décalé, d'être dans un autre octave. Donc mes cocos, on se retrouve avec 7 et 3, 10 jours d'écart entre, on va dire, l'an véritablement quand on est aligné, quand Terre-Mère est parfaitement aligné, parce que théoriquement ça doit se faire au solstice. Au solstice, théoriquement, ça devrait être, on va dire, le nouvel an pour l'humanité, puisque c'est le nouvel an pour Terre-Mère. Après qu'elle fasse le tour en 365 jours ou en 360, c'est pas grave, puisqu'elle repassera de toute façon toujours au même endroit physiquement. Comprenez? Donc on voit qu'il y a déjà une falsification déjà à ce niveau-là, que d'une certaine manière, on va dire, les institutions, parce que les institutions auraient pu dire non, on va fêter le premier de l'an à Noël. Il aurait pu. Donc ils ont rebalancé une deuxième falsification, qui fait que là, on n'est plus à 11h59, mais on a midi moins 10. Enfin, je ne fais pas les calculs, je ne vais pas faire les graphiques, je m'en fous. Mais comprenez ça. Donc quelque part, on voit que c'est pas axé ce bordel. Il y a un truc qui joue pas. Et c'est fait exprès. Alors bon, ça c'était déjà une première chose que je voulais dire, et je vais revenir dessus, parce que c'est un des éléments qui fait que nous vivons dans un monde falsifié. C'est-à-dire, quand on dit un monde falsifié, que nous vivons dans un monde qui n'est plus en accord avec l'horloge céleste. Vous voyez, d'accord ? Alors, je ne vous dis pas, ici, qu'on a inventé l'heure d'hiver et l'heure d'été. En plus, alors, on est déjà mal barré sur le cycle, on va dire, de l'année, mais alors, maintenant, quasiment, sur le cycle quotidien, c'est pareil. Hein. Alors, là aussi, on sait, alors je crois que ça s'appelle le cycle circadien, on sait que un véritable jour de la Terre ne correspond pas à 24 heures. Il fait moins. Alors là déjà, ouac, on a encore une couille dans le potage. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. D'accord? Donc on voit bien que nous qui sommes basés sur le chiffre 12, sur la base 12, 12 c'est 12. Eh ben on n'est pas sur 12. Alors quand on dit ça, on devrait appeler ça des trimestres, ben, on se rend compte, mais les trimestres, ils ne font pas exactement 90 jours. Parce que chaque mois devrait faire 30 jours. Ben non. Il y en a qui font 31, il y en a qui font 30, il y en a même qui fait 28, et puis ça change de temps en temps. Parce qu'ils ne savaient pas où les foutre et comment les mettre. Mais non, ça ne les a pas empêchés de décaler quand même à l'origine. Donc nous vivons absolument complètement décalés dans notre culture. Bon, c'était un exemple. Alors, mon idée première par rapport à ça, alors maintenant vous avez compris pourquoi ça met 9 mois... Eh ben, l'esprit directeur, il est simple, lui, il a son ruban. Et ce ruban, vous savez, quand on le remet comme ça, ben, vous allez vous retrouver, alors je refais encore le truc ici, bon, je vais le refaire, ici, on dit que vous avez le printemps, enfin l'hiver, hein, ça c'est l'hiver, que ça c'est le printemps, d'accord, que ça c'est l'été, que ça c'est l'automne, d'accord. Et donc, on sait aussi pertinemment que dans ce truc-là, il y a une histoire d'astrologie et de signes astrologiques. Et les signes astrologiques, c'est quand même marrant, parce que moi, bon, je suis né le 18 mai, et donc pas loin du prochain signe. Ça veut dire que c'est dans l'horizon du 20 ou du 21 que ça pom-pom, que ça commute. Mais c'est normal, puisque c'est en accord avec ça. Donc, quelque part, quand vous prenez les signes astrologiques, bah, vous vous rendez compte qu'ils ne changent pas au 31 du mois. Ils ne changent pas au 31 du mois. Donc, c'est toujours difficile. Tu dis, bon, l'autre, il est né au mois de janvier. Alors, c'est quoi le mois de janvier? Ah bah oui, mais ça dépend. Est-ce qu'il est début janvier, mi-janvier ou fin janvier? Parce que c'est pas pareil. D'accord? Donc, vous comprenez qu'il y a, on va dire, une raison à tout ça. Parce que c'est sur une base 12, donc obligatoirement. Là. Pour ceux qui disent 13, je vous rappelle que la 13, c'est la verticale. Elle n'est pas sur le disque horizontal, c'est une verticale. Alors, le truc des repronoms, vous avez donc les 12 signes astrologiques. D'accord ? Ok, voilà. Voilà. Alors, notre cher esprit directeur, lui, il a une bande où il va y avoir des incarnations. Alors, d'après vous, est-ce qu'un esprit directeur va dire « Ah ouais, toutes mes réincarnations, je vais les foutre dans ce signe-là parce que je veux connaître que celui-ci, uniquement celui-là » Ben non. Donc, il dit « Alors, là, dans cette incarnation-là, il faut que je sois de tel signe, de tel signe. » En fait, il répartit ses incarnations en fonction de tous les signes. Parce que comme chaque signe correspond à des énergies particulières et sont reliés généralement à une planète précise, bah évidemment, il faut bien qu'il essaye toutes les combinaisons possibles. Donc, si aujourd'hui, admettons, moi je suis né apparemment ici, là, dans ces eaux-là, peut-être que celui, une autre de mes incarnations, qui sait qui est aujourd'hui, qui vit aujourd'hui, etc., lui, il est peut-être né sous ce signe-là. Hein. Et donc, en fait, quand vous regardez, vous allez voir que les incarnations, toutes les incarnations qu'il peut y avoir, vont se situer en fonction de certains signes. Et c'est pour ça qu'un individu, quand il naît, sa date d'anniversaire est super méga importante. Parce que c'est son point zéro. C'est sa référence. Donc, si je prends mon cas, c'est plus facile. Hein. Je suis né un 18 mai. Et bien forcément, c'est ma référence zéro. Donc forcément, en face de mon 18 mai, je vais avoir un 18 novembre. D'accord ? Et puis ici, je vais avoir... Alors attendez, une, trois, bon, enfin bref, hein, parce que là, je ne suis pas tout à fait rond. Donc ici, pour que je foute le nez dehors, par définition, le 18 mai, c'est que papa, il a bricolé avec maman avant. D'accord ? Alors, hormon, alors, si tout avait été parfait, parce que ici, quand vous faites 18-5, ici, ça fait 18-8, hein, c'est ça ? Hein ? Ça fait le 18 août. Eh ben, c'est compréhensible. Parce que vous savez que les vacances en France, c'est surtout le mois d'août. Hein. Ah bah, papa n'était pas au boulot. Hein. Ah, elle travaillait maman. Hein. Et donc, grosso modo, c'est simple. Dans la famille, on va dire surtout les gamins, on va dire les 4/5 sont nés au mois d'avril. Enfin, avril-mai. C'est-à-dire que c'est moi qui est le plus tardif en mai. ça s'échelonne entre, je sais plus, 15 avril et le 21 mai, on doit être 6 ou 7. Papa, il faisait du tir groupé, hein, et c'était toujours pendant les grandes vacances. Hein. D'accord ? Bon, c'est juste pour vous dire comme ça. Donc, le truc, c'est que je sais que pendant la période du 18 mai ici, je vais être en 0-0. C'est-à-dire qu'il va y avoir des idées qui vont venir, je vais me faire travailler quelque chose, je ne sais pas quoi. Entre le 18 août et le 18 novembre, je vais être dans le 0-1. Ça veut dire que quelque part, je commence à avoir une structuration de la chose. C'est-à-dire que je commence à prendre conscience de la chose. Vous vous rappelez ? Le sans-nom, l'idée. Ça commence à... Là. Et je sais qu'au 18 novembre, qu'entre le 18 octobre et le 18 novembre, je vais prendre une décision par rapport à ça. Parce que vous savez, on appelle ça des décans. Hein. Donc, premier décan, deuxième décan, troisième décan, mais dans un signe. Mais là, vous avez 3 mois, donc vous avez le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Donc, quand j'attaque ici, le troisième mois ici, c'est-à-dire celui qui est le plus proche de là, je suis dedans, il va falloir que je prenne une décision. Et une fois que j'aurai pris la décision, à ce moment-là, comme j'en aurai pris conscience, eh bien, je vais mettre en œuvre. C'est-à-dire que entre le 18 novembre et le 18 février, je vais passer dans la fabrication, c'est-à-dire que je vais passer en 1-0. C'est-à-dire que c'est rentré dans la matière, dans le plasmatique, ça y est, j'ai les mains dans le cambouis. Et c'est pas difficile, entre le 18 février et le 18 mai, la chose sera réalisée. D'accord ? Je vous donne un exemple. Okay ? C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes, comme je vous dis, à chaque fois qu'on fait un tour d'horloge, on a nos quatre saisons. Donc, il va y avoir l'hiver. Ça ne se voit pas, on ne sait pas ce que c'est là, mais il y a des graines qui sont plantées, et on ne sait pas c'est qui les a plantées, mais sont là. Là, c'est le printemps. Ça va commencer à émerger à votre conscience. Et il y a une petite pousse là, on dit, mais d'où ça sort ça? Vous allez le voir. Après là, ben, si vous dites, oui, ok, je suis d'accord pour laisser pousser la petite graine, pour qu'elle devienne du maïs, n'importe quoi, ok, tu as pris ta décision. Mais si tu dis là, non, ça ne m'intéresse pas, ok, le projet sera avorté. C'est comme si vous aviez avorté. C'est fausse couche. D'accord ? Donc là, pendant cette période-là, ben, vous allez commencer à mettre en œuvre. Parce que là, c'est clair, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, ben, forcément, à partir d'un moment, vous allez avoir la partie où ça va être construit. Voilà. Et arrivé au 18 mai, ça y est, vous avez récolté tout, etc. Donc, tous les cycles de terre-mère sont à l'identique de notre matière, pour la simple et bonne raison, parce que cette matière est terre-mère, je vous signale. Donc là, je ne fais que vous donner une vision fractale. Ce qui se passe au niveau des saisons de terre-mère se passe à notre niveau. Donc, quand quelqu'un ici fête son anniversaire, qu'est-ce qu'il fait ? Il rattaque une nouvelle année au niveau personnel. C'est pas pour recevoir des cadeaux, des machins comme ça, mais il sait qu'il a fini un cycle et qu'il en recommence un. Aussi simple que ça. Alors, vous comprenez que dire « Ah oui, mais là, c'est le nouvel an, et puis ceci, ceci, cela. » On s'en fout des fêtes de nouvel an, ça veut rien dire. On s'en fout, fêter Noël, c'est juste un truc religieux. Donc, vous savez que Terre-Mère, elle a son cycle avec les solstices et les équinoxes qui sont classés tous les 21, pom-pom, terminé. On est bon. En fait, le 21-9, c'est faux, parce que c'est plus souvent le 22, voire le 23. De temps en temps, ici, cette année, ça va passer le 22. Il y a des variations, parce que le calendrier grégorien, c'est pas... faut s'ajuster. Hein. C'est-à-dire que, pourquoi ils vont décider que cette année, c'est le 22? Parce qu'ils ils regardent où est la planète, ils disent, elle n'est pas pensée encore au point zéro aligné avec telle planète, donc... on décale, voilà, hein, puis c'est tout. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Alors imaginez les fadaises, les foutaises, les conneries quand on dit attention Mars. Alors tout dépend, c'est quand la pleine lune. Parce que on fête la Pâque seulement après le 21-3 à la pleine lune. Alors des fois, ben, on se retrouve carrément en avril. Hein. Fêtez Pâques à 10 ou le 12 avril, c'est pas quelque chose d'incongru chez nous. Hein. Ça veut dire que vous êtes absolument complètement décalé de tout. Quoi. Là, vous avez encore un 11h50. Je me suis dit, c'est même pas 11h59, c'est 11h50, là, carrément. Hein. C'est complètement décalé. Alors, comment voulez-vous être en phase avec l'horlogerie céleste? Parce qu'à chaque fois qu'il y a ces moments-là, ce sont des moments clés pour Terre-Mère. Que tu me racontes comme connerie encore. C'est assez simple. Vous savez, j'ai fait tout ça, ça date 3-4-5D, hein. C'est quand même pas tout neuf, mais aujourd'hui, je faisais un peu de résumé. Hein. C'est bien pour la mise parce que je crois qu'elle n'a pas tout lu. Elle n'a pas tout lu. On sait que quand on fait un cycle comme ça, et qu'on met le soleil ici, ben vous n'allez pas avoir les mêmes configurations. Ici, là, quand le soleil il est là, il arrose tout ça. Donc quand il arrose tout ça, on dit ben, que ça va faire, comme dire l'autre, par exemple, une pleine lune. Après, etc. Et en fait, vous allez avoir une lune montante, une lune descendante, une machin. Mais pour la Terre, c'est la même chose. Ce qu'on voit par rapport à la Lune est une chose, mais Terre-Mère, c'est la même chose. Elle, le Soleil, elle est bien un satellite du Soleil. Donc par rapport au Soleil, si on regardait la Terre-Mère, ben, on verrait qu'elle est en lune montante. Enfin, elle est en Terre montante, en Terre descendante, en pleine Terre. Alors, on va avoir le même phénomène, mais à un autre niveau. Je vous dis, tout est fractal. Dès que vous avez compris un petit truc, après, c'est facile d'étendre. Parce que c'est le même fonctionnement. Donc, évidemment, quelle est, quand vous regardez, quelle est l'influence de la lune montante chez l'humain? Quelle est l'influence de la pleine lune chez l'humain? Quelle est l'influence d'une nouvelle lune sur l'humain? Eh bien, il y a des influences et on peut vraiment les compter. Hein. On est d'accord? Bon, j'écris tout ça, hein, je ne vais pas revenir sur le détail. Mais pour Terre-Mère, c'est la même chose. C'est la même chose. Terre-Mère ne se fait pas arroser de la même manière selon la saison. D'accord? Alors, quand je vous dessine les saisons de Terre-Mère, je commence généralement par le bras. Ici, je dis, voilà, on attaque, on fait ça, puis on revient là. Puis je vous dis, ici, ça, c'est le ciel, et ça, c'est la Terre. Au niveau, parce que je vous avais redessiné ça la dernière fois, au niveau d'un truc comme ça, quoi. Donc, en fait, Terre-Mère va passer selon les différentes phases, et donc, elle n'est pas tout à fait dans la même fréquence. Donc, on va voir qu'arrive à un moment ici, là, elle se fait arroser grave, alors que là, elle se fait arroser nettement moins grave. Donc ici, on va dire qu'elle serait en terre descendante, mais je ne sais plus, bon, elle a une partie du soleil, puis elle est en terre descendante, mais en fait, ça serait quasiment, si je regardais comme ça, on dirait ça, c'est la nouvelle lune, quoi. Noir. Donc, là, je vous étends un petit peu la vision des choses. Donc c'est pour ça que les solstices et les équinoxes sont très très importants, comme pour un humain, il va regarder quand c'est la pleine lune, quand c'est la nouvelle lune, quand c'est la lune montante, quand la lune descendante. Il ne va pas planter ses choux ou ses poireaux n'importe quand. Il y a des jours pour ça. Et bien pour Terre-Mère, il y a des jours pour planter dessus, on va dire, des informations, pour lui envoyer des informations. D'accord? Alors, ça commence à devenir un peu grégouillé, mais bon, c'était juste pour vous introduire, on va dire, au fameux 11h59, qui est, je vous rappelle, 11h55, etc., etc. En fait, ça veut dire qu'on est constamment, dans toutes mes références, décalé par rapport à l'horloge céleste. D'accord? Alors, comprenez bien que forcément, tous ces décalages sont dus à un certain nombre de choses qui ont été faites à Terre-Mère. Donc, les gens vont me dire, oui, mais disons, là, Terre-Mère, il y a le cycle de procession des équinoxes, machin, 26 000 ans, tout ça. Oui, mais ça, c'était pour la période de l'involution. Parce qu'une fois que Terre-Mère, si je redessine Terre-Mère, avec son axe, enfin l'axe logique, et puis qu'actuellement, il est là, pourquoi elle s'amuse à faire une procession des équinoxes? C'est simple. Parce qu'elle s'est ramassée quelque chose sur la tronche à une certaine époque. C'est-à-dire que c'était une planète qui était axée, alors on dit, bon, bah déjà, voilà, on va la désaxer, mais avec quoi et comment? Bah c'est simple, ça veut dire qu'il y a eu un choc, parce que c'est quand même une boule de matière, d'une certaine manière. Donc elle a eu un choc extérieur, qui est venu, et comme vous savez qu'elle tourne, bah si tu fous un choc ici, qu'est-ce qui se passe? Soit tu l'accélères, ou si tu fous un choc comme ça, soit tu la ralentis. Donc, si on a 365 jours, on l'a accéléré ou on l'a ralenti? Donc, évidemment, que le fait d'avoir été impacté par quelque chose a non seulement modifié sa vitesse de rotation, mais a aussi bousculé son axe. Parce que si j'avais voulu ne pas modifier l'axe, j'aurais tapé dans cet axe-là, un petit peu à droite ou un petit peu à gauche pour l'accélérer ou la freiner. Mais comme l'impact s'est fait plutôt un petit peu au-dessus, eh ben, ça l'a bien sûr accéléré tout le truc, mais quelque part, ça l'a aussi dévié. Comprenez ça? Donc, le basculement de Terre-Mère et de tout le merdier que nous connaissons aujourd'hui, maintenant, la question qui reste, mais bon, ce n'est pas une question, parce que je me réponds déjà à moi-même. Quelque part, est-ce un hasard? Parce qu'en fait, ça peut être une météorite, ça peut être une bombe nucléaire, ça peut être de tas de trucs, parce qu'on a joué au con. On est d'accord. Donc, c'est quelque chose qui a fait que, quand même, Terre-Mère s'en est ramassé un coup, puis la musique, elle n'est plus tout à fait pareille. Mais qu'est-ce que ça a eu pour conséquence? C'était qu'on n'était plus alignés. Et donc, à ce moment-là, que les messages envoyés entre guillemets par le ciel n'ont pas du tout la même conséquence quand ça rentre dans le puits directement ou quand ça attaque juste sur le côté. Parce que si ça attaque sur le côté, ça ira moins loin, hein, ça se fera freiner, et voilà. Donc nous sommes tous, nous vivons tous sur une planète qui a été décalée, désaxée, pour une raison précise. Alors, quand on relève un certain niveau, on se comprend qu'il n'y a pas de hasard. Parce que même quand un soldat appuie sur la gâchette, c'est pas un hasard. Et s'il y a une balle à doigter quelqu'un, bah celui qui est là-bas, c'est qu'il a dit « oui, je veux ». Parce que mon esprit, il a dit « oui, alors je prends ». Donc je sais que ça va faire hérisser les cheveux de beaucoup, mais c'est la réalité. Aucun mort n'est accidentel. Comme au Kunvi d'ailleurs. Tout est le résultat, ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de quelque chose. Alors maintenant, après, c'est de se poser la question. C'est qui a poussé le bouton ? Donc, selon d'où ça vient, bien évidemment, on peut sourire, parce que bon, certains pourraient dire, ouais, Laurent, il raconte des conneries, trucs, alors je ne vais pas vous en parler, comme ça, moi, je n'aurai pas de trucs comme ça. Mais selon, certaines capacités de chacun à être branché à l'invisible, eh bien, vous aurez des réponses instinctives. Et le truc, c'est que des fois, simplement, vous savez, je vous rappelle, alors je vous dis ça, c'est pas une blague. Imaginez que dans la création, alors je refais mon truc comme ça, vous allez être habitué à ça maintenant, ici vous avez la source, vous avez toute la création qui est là, et le sans-nom dit j'ai une idée, et comme il est inclus dedans, ça fait une idée, j'ai une idée. Donc la source le met en œuvre. Et bien sûr, la source, comme c'est de l'antimatière, et puis c'est nous aussi en même temps, dans le sens que on est quand même des galactiques. Hein, donc on est là pour le mettre en œuvre. Parce que être en harmonie avec la création, c'est être en harmonie avec les demandes du sans-nom. Puisque c'est lui le joueur, en fait. Donc, le truc, c'est imaginer, là, voilà, moi, je m'imagine, mon corps, c'est le sans-nom. Si je décide de dire, tiens, je vais aller prendre la cuillère pour goûter, j'ai intérêt qu'ils obéissent quand même là. Hein, que l'information transite là-haut, que ça passe là, et puis que j'ai de chercher la cuillère, parce que sinon, je vais avoir un souci. D'accord ? Donc on voit bien que le sans-nom est un organisme, une entité, qui a des envies de faire quelque chose, et qui a créé un corps de matière, pour pouvoir... un corps de matière a créé la matière, pour pouvoir... expérimenter dans la matière ce qu'il aimerait expérimenter. Vous savez, quand vous êtes gamin, vous arrivez, est-ce que vous avez notion, vous avez 10 doigts, ils avaient 10 doigts, 10 orteils, que c'est fait pour marcher? Non, posez pas de questions. Dès vous voyez quelque chose, vous essayez de le bouffer. Hein? Vous essayez de vous faire les crocs sur tout ce que vous allez trouver autour de vous. Alors vous commencez par le doigt, vous sucez, vous... Bon, enfin bref, vous découvrez le monde avec la bouche. Bon, alors, comprenez que c'est à peu près dans ce niveau-là. Donc le sans-nom, lui, il a envie de découvrir le monde. Il a envie de découvrir sa création. Donc, il se dit, j'aimerais créer ça. Et puis, hop, ça va se créer. Ça mettra un certain temps. Puis après, il va se dire, j'ai envie de le bouffer. Mais juste une chose, c'est, par exemple, vous prenez une orange. Alors, il dit, orange. Mais sans la peau, sans tout ça, tu vois. Hein, bon, bref. Et puis, il y a une chose qui n'était pas prévue. C'est de jouer aux boules avec. Parce que jouer aux boules, c'est pas manger. Et c'est ça qui fait tourner la création, c'est que le sans-nom, régulièrement, a une idée première, et puis en cours de route, il y a une autre idée qui vient, qui télescope, puis pof, c'est comme la boule de billard, et pouf, il y a une autre qui vient, et puis il va passer par les bandes et partout. Et l'objectif, c'est de dire, oui, t'es une orange, certes, t'as prévu d'être mangé, mais t'as pas prévu pour rouler. Alors maintenant, comment tu te comportes quand tu roules ? Et donc, l'orange en elle-même, elle est surprise, parce que, comme dirait l'autre, elle va tourner, elle va recevoir des chocs, etc. Elle ne comprend pas, parce qu'elle n'a pas été étudiée pour ça. Avant, elle était peinard, au bout d'une branche, je pousse, je me gave du soleil, et puis quand je serai mûr, pouf, je vais tomber, on va me manger. Puis t'en as qui te prennent et puis qui jouent au boule avec. Tu dis, attends, là, c'est quoi le travail, quoi? Et donc, après, il y en a qui vont se dire, bah ça y est, je me suis bien joué avec les boules, ok, très bien, bah, maintenant, on va la passer au truc de jus, là, alors on la coupe en deux, puis on va la passer au truc, pour il sera au jus. Il dit, ah, bah, attends, bah, j'avais prévu qu'on bouffe par carquet, tranquillement, qu'on décortique la peau, tout, pas qu'on pense à la machine, et qu'on... Voilà. Et donc, tout ce que nous faisons au quotidien, en fait, c'est, le surnom s'amuse à ça aussi. C'est-à-dire, il est comme un enfant qui découvre sa propre création et qui se dit, si je peux changer le plan ou faire une connerie, je vais le faire. Parce que j'ai envie de voir ce que ça fait. Voilà pourquoi nos amis dans l'invisible, régulièrement, sont emmerdés. Parce qu'ils disent, le surnom, il veut ça, on y va parce qu'on est complètement au service et en harmonie totale. Et tu sais pas ce qui se passe, et d'un seul coup, pouf, il y a un changement de direction qui fait que tout ce que tu avais prévu, que ça allait, ben, ça joue plus. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ne prévoient jamais les trucs, des plans sur la comète. Hein. L'invisible, ils font jamais ça. Alors, pudiquement, on dit, vive leur instant présent, parce qu'ils peuvent pas faire autre chose, hein, franchement. C'est-à-dire, ils disent, ça avance, à fur et à mesure que ça avance, mais ça peut changer du tout au tout d'un seul coup. Donc, on suit autant qu'on peut. Et en fait, le sans nom, il adore. Parce qu'ils disent, ils sont tellement dans leur routine que je vais foutre un coup de pied dans la fourmilière histoire de voir comment ils vont réagir là-dedans. Et c'est ça. Et donc régulièrement, la création est secouée par certaines énergies, certaines pensées, certains trucs, certains machins. Et on se dit, mais pourquoi, d'où ça sort? C'est le sans-nom qui joue. Avec lui-même, avec sa propre création. Alors bien sûr, c'est pas méchant ce qu'il fait, c'est avec tout amour. On est d'accord. Mais toi là, quand t'es dans l'orange et tu viens de te prendre un mur ou tu te prends la palle de l'essoreur, enfin du truc à jus, c'était pas prévu au programme. C'était pas dans ton ADN. Alors tu dis, je réagis comment, hein? Et ben voilà. Bon, bref résumé. Donc ça veut dire que, que quelles que soient les règles qu'il peut y avoir dans la création, aussi parfaite soit-elle, en vérité, le sans-nom s'amuse avec sa création et amène des changements quand on s'y attend pas, ou etc., etc. Donc, maintenant, la question, est-ce que c'est le sans-nom qui a donné un coup de pichenette pour que la Terre se mette comme ça, pour qu'on soit dans la merde encore plus profonde qu'avant? C'était juste histoire de voir. Vous savez, vous avez une bestiole qui... Parce que vous avez dit, voilà, tout le monde est gentil, tout le monde est truc, il y en a marre, je m'emmerde, et ils roupillent tous, ils pensent qu'à ça. Alors, je voudrais les réveiller, quoi. Alors, on dit, bon, on va créer un truc, on va leur dire, tu vas au charbon, parce que c'est franchement les plus dévoués, hein. C'est vraiment les plus dévoués des dévoués parmi les dévoués. Bon, vous êtes prêts à faire une expérience? Oui. Bon, bah ok, très bien, alors on va y aller. Je vous donne tous les pouvoirs. Hein, d'accord, hein? Libre arbitre, total, tous les pouvoirs. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, bah c'est sûr, les autres, ils vont se dire, ah bah, on a écouté le sans-nom depuis tellement des éons et des éons et des éons, ils nous disent là maintenant qu'on peut faire autre chose. Ah bah, on va pas se gêner, quoi. Et le résultat, le sans-nom, il est super content parce qu'il dit, bon, quand même, il dit, ça va foutre le bordel partout, alors... je vais mettre dans une petite boîte comme ça, puis on va voir ce qui se passe, on laisse dans la boîte. Et puis bah forcément dans la boîte, il dit, ah mais non, là, il avait toutes ces capacités-là, maintenant, bah tiens, au lieu d'être en B12, on le met en B7. Ah, il avance encore. Ah bah d'accord. Alors, je vais lui couper les antennes. Hein, je vais faire que les antennes tombent. Tac, tac. Alors les antennes tombent, parce qu'il y a une maladie, on ne sait pas d'où ça sorti, bah voilà. Et puis tac, tic, 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 tic. Et puis il se retrouve avec un espèce de machin tout noir. Hein, qui voit à peine, qui est à peine perceptible, puis il se dit, voilà, bon, bah maintenant, tiens, on va faire une expérimentation, on va voir si on en prend un, puis qu'on fout à côté du bocal, qu'est-ce que ça va foutre comme merdier autour. Et je peux vous dire que les autres qui étaient dans leur routine, tout ça, ils disent, putain, j'arrive plus à dormir, ça me gratte. C'est normal, parce que le sans-nom s'amuse. Et donc, vous allez me dire, ouais, bah alors, avec toutes ces souffrances, toutes ces morts, tous ces trucs, oui, mais la mort, en fait, c'est complètement l'inverse de ce que vous pensez. C'est pas la fin de quelque chose, c'est en fait le retour un peu à la maison en disant, putain, hein, j'étais quand même bien coincé dans cette carcasse quand même, hein, ça fait du bien de sortir de temps en temps quand même, hein, se refaire une santé. Hein. Mais c'est ça, en fait, la mort. C'est simplement que tu sors du bac d'expérimentation pour faire pause. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard quand quelqu'un meurt. C'est qu'il a sa dose. Et que, bon, l'esprit directeur dit, bon, ok, c'est bon. Hein, on va laisser se reposer un petit peu, là. Hein, et puis, après, je reprends la particule d'esprit et je la rebalance sur une autre image pour expérimenter encore autre chose, etc. Donc, quand quelqu'un est en harmonie avec la source, quand on dit la source créatrice de toute chose, c'est-à-dire celle qui permet de pouvoir mettre, on va dire, d'expérimenter la chose, elle n'est qu'un transformateur d'une idée. Mais derrière tout ça, puisque je vous ai dit que toute cette partie-là, en fait, est inclue dans la source, à la fin, vous dites, bon, alors, le sans-nom, il est où? Ben, il est partout. Bon, ok, d'accord. Ça veut dire qu'il peut intervenir partout où il veut. Sauf, il faut quand même mettre un sauf, quand même. Hein. Autrement, ça serait pas marrant. Sauf que, pour qu'il puisse communiquer avec ses créations, et avec ses créatures, il faut qu'elles soient en harmonie et en phase avec lui. T'as le toki-woki, le téléphone, allô, tu tournes à gauche. Oui, chef, ça tourne à gauche. Mais va causer à ceux qui n'ont plus de téléphone depuis longtemps. Tu regardes et tu dis, putain, incontrôlable, parce qu'on ne peut pas communiquer du tout. Je ne peux que regarder ce qui se passe. Alors, comme il comprend que dalle, hein, il n'est plus télépathique du tout, il n'écoute plus sa petite voix, il ne fait plus rien du tout, on va mettre des coups de pichenette, hein, tu sais, comme une petite fourmi, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de la fourmi, et vous ne connaissez même pas le monde de la fourmi, parce que quand elle va dans sa fourmilière, bah, vous ne savez plus, tu sais qu'elle est dans le temps, mais tu ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Et c'est pour ça que le sans-nom, en fait, quelque part a besoin de savoir ce qui se passe, histoire de quand même rigoler un peu, parce que quand même c'est son expérimentation. Sachez que c'est l'expérimentation la plus involuante qui a existé jusqu'à maintenant, enfin depuis que la création existe, si on peut mettre un terme temporel à cette affaire. C'est les rebelles. Donc on dit voilà. Alors c'est pour ça qu'il a quand même réussi à embidouiller quelques-uns qui sont qu'on appelle des avatars. Il dit, je vais fabriquer une petite fourmi, voilà, et là j'y mets le Walkman, enfin le Walkman, j'y mets l'antenne, tout, hein, elle ne pourra pas le loter, rien du tout, et puis on va l'envoyer dans le temps avec les autres. Alors les autres, ils vont dire, c'est pas une fourmi comme nous, là. Celle-là, elle ne crève pas tous les 30 ans, les 40 ans, ça fait 2 siècles qu'il est là, ou ça fait 1000 ans quand même, et puis il sourit tout le temps. Et puis il fait des miracles, et puis il fait des tas de choses, putain, mais il n'est pas de chez nous, lui. Et pour cause. En fait, un avatar, par principe, pour le sans-nom, c'est tout simplement une caméra d'espionnage pour voir ce qui se passe dans notre monde, parce qu'autrement, il n'a aucune idée, il n'a aucune possibilité de voir ce qui se passe dans notre monde, pour la simple et bonne raison, c'est que le module communication, on ne l'a plus. Donc, comme on n'a plus le module communication, bah, il ne peut pas voir. Donc, le résultat, il est très fortement intéressé quand même qu'il y a un petit Christ solaire ou deux qui se pointent quand même sur la planète. Parce que si c'est un Christ solaire, comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo précédente, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a rétabli la communication et s'est dit « Moi, galactique, moi, comprendre la matière, moi, vivre la matière, moi, connaître tout le bordel. Oui, alors, c'est pourquoi ?» Donc, évidemment, les Christ, on va dire, les Christ solaires, bah, dès qu'ils vont foutre le nez dehors, son nom va dire « Toc, toc !» Est-ce que ça t'intéresserait d'être un espion, enfin d'être les yeux, d'être mes yeux dans la termitière ou dans la fourmilière? Bah tu vas pas dire son nom, écoute, fais chier là, j'ai tellement marné que quand même tu me laisses un peu de repos là quand même. Hein? Bah non, parce que si t'es devenu Christ solaire, c'est parce que justement tu termines dans les lois de l'un et que bah, t'as envie d'être au service et que tu sens que ta vie en fait n'a qu'un seul objectif, c'est de répondre à toutes les demandes du sans-nom. Donc quand le sans-nom il va se pointer, tu dis bon non merci, je pense pas que je vais faire autre chose. Il n'y a rien d'autre chose à faire. Tu peux que dire bah ouais, quand même, merci pour l'honneur, hein, c'est sympathique, mes efforts sont récompensés, j'ai le sans-nom, et voilà. Et puis, en fait, en tant que petite fourmi, tu reviens dans la fourmilière, mais en fait, le Pékin qu'il y avait dedans, bah, il n'existe plus. Hein. Enfin, le petit ego depuis longtemps est barré, parce que sinon vous n'êtes pas Christ ou Christ solaire. C'est à dégager, quoi. Simplement, au lieu d'avoir votre esprit directeur en ligne, qui est en fait un commercial du sans-nom, hein, quand même. Hein, c'est... vous êtes en ligne directe avec le grand chef. Donc bon, bah c'est quand même sympa. Bon, j'ai pas dit que tous les crises solaires allaient devenir des avatars. J'ai pas dit ça. Mais c'est vrai que le sans-nom, quand même, il se dit, ouais, bon, alors, c'est quand qu'il y en a un qui va sortir de la fourmilière quand même avec les antennes et puis que je vais pouvoir communiquer avec lui en direct. D'accord ? Donc, dit autrement, c'est le jackpot. C'est tout simplement, il dit, voilà, on m'a dit que si je faisais ça et que je redevenais Chris et Chris solaire, j'ai peut-être une chance de gagner au loto, mais bon, hein, c'est jamais. Alors c'est sûr, il faut d'abord jouer pour gagner, parce que si tu joues pas, tu pourras pas gagner. Hein, d'accord ? Ça c'est la première chose. Et puis, si tu joues et que tu es dans les premiers à jouer, bah, c'est sûr que tu as plus de chances d'avoir le sang qui se monte et qui dit, bon, est-ce que tu veux bien que je prenne la place ? Tu diras, oui mon capitaine, oui mon général, oui monsieur le président, enfin tu diras ce que tu voudras, mais tu seras là, et voilà quoi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucune, il n'y a plus rien qui peut t'atteindre, déjà quand tu as un cristal solaire, il n'y a plus rien qui peut t'atteindre au niveau de la galaxie, mais là tu es au-delà de la galaxie, tu joues à un autre niveau, évidemment, parce que, bien évidemment, ça c'est des choses que j'ai pas encore dit mais vous pouvez comprendre un peu entre les lignes, c'est que le cinquième, le septième, enfin le huitième super univers, ceux qui vont y aller, ça va pas être juste des petits cristaux solaires qui viennent juste de récupérer toutes les billes et qui disent ça y est maintenant je suis revenu comme avant, enfin comme avant j'ai réussi à revenir à la maison, mais on va dire ouais bon c'est bien mais bon là de l'autre côté on va aller expérimenter un élément qu'on n'a pas vraiment expérimenté quoi. Hein, on va dans l'inconnu. Alors évidemment, comprenez bien que ces entités qui seront arrivées à ces niveaux-là vont de l'autre côté, dans ce huitième super univers, devenir quasiment des galaxies à eux tout seuls. Ils vont être des soleils. Comprenez ? Puis après, ils expérimenteront de plus en plus et créeront donc d'autres petits systèmes solaires, etc., 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 etc. Mais voilà, donc les joueurs les plus enclins à aller œuvrer dans le 8e super univers seront ceux qui sont les plus prometteurs et ceux qui ont fait le plus de chemin. Alors je vous rappelle, comme on est équilibré entre l'antimatière et la matière, comme on a été tellement loin bas dans la matière, vous imaginez la quantité d'antimatière, la puissance qu'on a. Et donc forcément, on peut dire que les Orantiens sont, on va dire, les favoris dans l'affaire. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es Orantien, tu vas y aller d'une manière automatique. Ça sera ceux qui arriveront au niveau. Alors vous allez me dire, hein, d'ici 3 siècles ou 4, des crises solaires, on va commencer à les rencontrer un peu partout. Hein. On est d'accord, mais quelque part, les premiers, enfin comme dire, c'est comme sur Internet, les premiers arrivés sont les premiers servis. Hein. Hein, on est d'accord. Mais comme l'univers est en constante augmentation par rapport au super univers, hein, je peux vous dire que le début du 8e super univers est virtuellement. Est limité, mais en fait quand tu arrives, si c'est comme ceux qui sont arrivés en Amérique la première fois, ils disent putain, est-ce qu'on va voir la mer de l'autre côté, ça fait du monde, il faut y aller, hein. C'est long. Hein. C'est-à-dire qu'ils découvrent des trucs, c'est vaste, c'est tellement vaste. Donc les premières entités, on va dire, les premiers cristaux solaires qui quitteront le jeu, on va dire, du 7e super univers parce qu'ils foutent les pieds dans le 8e, je vais vous dire, ils se retrouvent à un truc immense. Tout t'es permis, enfin tout sera sous forme de potentiel. Donc ce sont des récompenses, on est d'accord. Mais bon, comme dirait l'autre, ceux qui vont avoir le droit à ces récompenses-là, c'est pas ceux qui traînent les pieds et puis qui n'ont rien à battre et puis qui veulent continuer à faire mettre au boulot dodo. Hein. On est d'accord. Hein. Alors bon, vous inquiétez pas, hein. Soyons quand même honnêtes. Les petits jeunes là, qui sont en train de naître là, depuis 2012, ils vont avancer plus vite que les vieux comme nous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seront les premiers. Vous savez, vous connaissez hein, la fable la lièvre de la tortue et du lièvre, le lièvre et la tortue. Hein, on peut dire que tous les petits nouveaux là, qui naissent, là, c'est des lièvres. Hein, d'accord. Ils vont courir vite, ils sont déjà en B12. Par rapport à ceux qui sont en B7. Mais ça ne veut pas dire que B7, il n'arrivera jamais. Hein. Parce que lui, il aura la constance, il aura l'expérience, il fera son truc, et puis tac, tac, et il avancera. Et il essaiera pas de dire vite, et puis je vais profiter de la vie, je vais faire ceci. Alors, vous connaissez la fable. Hein. Donc, la partie est ouverte, et si nous sommes aujourd'hui incarnés dans cette carcasse, et qu'on a... parce que c'était quand même 21-12-2012, donc ce qui veut dire quand même, quelque part, les lièvres, là... ils sont même pas encore arrivés au CP quoi. Hein, Parce que quoi, ils ont 6 ans, ils ont 7 ans au maximum. Hein. Donc, ils sont encore jeunes. Ils sont encore très jeunes. Bon, ceux d'avant, ils ont déjà quelques petites possibilités supplémentaires, on est d'accord, mais ils ne sont pas en B12. Mais ils le deviendront, puisque bon, il y a un programme qui est prévu quelque part, qu'on puisse, bien sûr, comme dire l'autre, débloquer, on va dire, le B7 et pour pouvoir développer en B12. Il y a des plans, enfin il y a des choses qui sont prévues, évidemment. On ne va pas dire, bon, bah écoutez, vous êtes né avant le 21-12-12, bon allez, puis. Le cimetière, ça va pas jouer comme ça quand même, hein, c'est évident. Voilà, donc quelque part, ne vous découragez pas, bien au contraire, parce que les anciens qui aujourd'hui, comme dirait l'autre, tiennent la route, c'est eux qui véritablement, je dirais, vont maintenir les lièvres en action, on va dire. C'est parce que on trace la voie, on avance, mais avec tout ce qu'on a vécu, on va dire, on sera beaucoup plus fiable que ceux qui arrivent, et puis, vous savez, la jeunesse, hein, hein, vous connaissez le problème entre la jeunesse et voilà. Hein. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, vous comprenez bien que dans une votre entreprise, si vous embauchez des jeunes, c'est vachement bien, c'est une start-up, mais elle va mourir aussi vite qu'elle est née. Hein, hein. C'est juste une histoire de quelques années. Alors, de temps en temps, il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais tu ne sais pas pourquoi ils s'en sortent à côté. Parce que derrière, il y a des gestionnaires qui ont de la bouteille, ils y attendent mon coco, là. Il y a ceci, il y a cela, ok, d'accord, mais tu vas t'y prendre comme ça, puis ça, et puis ça. Alors, ils courent toujours, mais derrière, ceux qui mènent le traîneau, ils sont stables, d'accord. Donc, j'ai fait dans les ressources humaines quand même pendant suffisamment longtemps pour savoir comment équilibrer une entreprise pour qu'elle avance. Et vous avez dans une entreprise, on va dire, trois catégories de personnel. Il faut savoir les classer rapidement. Alors, bon, trois catégories de base. Vous avez ceux qui courent et qui avancent, les lièvres. Vous avez ceux qui vont suivre la marche normale. Et puis, il y a tous ceux qui se disent, on bougera pas notre cul. Eh ouais. Alors, la logique des gens, ils se disent, ouais, bah alors on n'a qu'à supprimer cela, puis on va avancer. Ben oui, mais alors là, t'as un chariot fou, là. C'est-à-dire que là, t'as une meute de loups qui avance, on trace, mais alors, derrière, ça suivra pas, déjà, premièrement. Ça suivra pas, et après, ils vont être tout seuls, vous savez, comme les chiens qui courent, mais le traîneau, il est plus accroché, hein. Dire bon voilà, donc grosso modo, une société où il n'y a pas des gens qui résistent, on a un problème. Donc l'objectif est d'équilibrer. C'est de dire j'ai quelques chiens fous, mais il faut que ça soit équilibré par un certain nombre qui vont résister. Parce que en résistant, ils vont muscler cela. Dans cela, ils vont avancer mieux. Parce que si c'est trop facile, t'as pas de chariot, t'avances, tu cours. Bon, ok, d'accord, mais si t'as 200 kg à tirer, t'inquiète pas, tu vas muscler. Tu courras moins vite, mais tu vas muscler. Donc t'auras plus de puissance. Et comme t'auras plus de puissance, tu seras encore plus heureux de continuer à tirer. Parce que tu sais pourquoi tu tires. D'accord ? Donc, bon, je vous donne des règles de base qu'on applique, on va dire, dans les sociétés où il y a quand même un peu plus que 3 personnes. On est d'accord, hein. Donc, il faut trouver du vioc, enfin quand je dis du vioc, de l'ancien, de celui qui ne veut pas bouger. Parce que bon, il y a des anciens qui sont là, hein, je vous signale. Mais après, il faut regarder par rapport, on va dire, à l'expérience de l'individu. Et il est évident que ici, généralement, vous allez avoir, souvent c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'une personne, elle est là, puis un jour, bah, elle va courir moins vite. Et puis un jour, elle va devenir carrément en pleine résistance parce que, bah, comme la société évolue, elle ne veut pas évoluer avec, alors elle rentre en résistance. Donc, l'objectif est d'équilibrer les forces. Si tu mets trop de gens ici, et puis tu as deux pauvres gars qui tirent, c'est sûr qu'ils vont fatiguer. Donc, il faut trouver, on va dire, quelques personnes. Alors, quand je dis jeune, tout est variable. Jeune, ça ne veut pas dire forcément 20 ans. Hein, quand tu dis je veux embaucher un jeune directeur général ou PDG mondial, t'inquiète pas, tu vas pas le prendre à 25 ans. Hein. Hein, il aura au moins la quarantaine ou 45 ans. Donc tout dépend des postes. Mais il faut équilibrer ceux qui tirent de ceux qui retiennent. Et puis bah, ceux qui jouent entre les deux. Quoi, je veux dire, voilà. Et une fois que tu sais équilibrer ça, après tout va bien. Et donc, globalement, le futur PDG international de la boîte multinationale, c'est un gars qui va avoir 50, 55 balais. Mais pourquoi il va être élu? Parce qu'il tire plus vite que tous les autres. Parce que les autres, ils sont incrustés un peu dans le temps-là. Ils avaient l'habitude, le machin, le truc, donc ils sont incrustés. Donc il y a forcément des jeunes loups, mais des jeunes loups qui peuvent avoir 50 ans ou 60 ans. Tout dépend quel est le poste visé. Donc l'idée, c'est pas de regarder l'âge, c'est qu'en fonction de l'expérience qu'il faut avoir pour un certain poste, il faut qu'il y en ait qui soit musclé quand même. Donc généralement, si tu pars trop bas dans la hiérarchie, on va dire trop bas, avant d'arriver tout en haut, il va se passer tellement d'années que tu seras vieux, tu seras à la retraite avant. Donc c'est pour ça que généralement, il est quand même préférable de pouvoir démarrer, quand tu as des visions, on va dire, de grandes entreprises, de ne pas démarrer comme juste simple employé. Quoi. Vaut mieux que tu démarres être ingénieur, cadre, quelque chose, bon, enfin il faut que tu arrives à une certaine échelle. Parce que dans le côté professionnel, bon là je dérivais un peu du truc, c'est vous avez ce qu'on appelle des échelles. Vous avez des échelles. Et ben, je peux vous dire, hein, quand vous êtes sur cette échelle-là pour passer à celle-là, il faut déjà se lever de bonne heure. Ça peut arriver. Hein. On est d'accord? Puis après, il faut que tu grimpes là, puis après, il faut passer là. Il faut vraiment être un génie, là. D'accord? Donc, quelque part, si tu veux aller arriver là, tu as intérêt à commencer dans cette échelle-là tout de suite. Hein. Pas dans celle-là. Il y en a qui le font, hein, on est d'accord. Mais, comme dirait l'autre, ça a un gros problème. C'est que, comme ils n'ont pas les diplômes, et qu'ils viennent sur ce truc-là, il y a tous les autres qui les noyautent, quoi. C'est-à-dire qu'ils font tout. Ils disent, attends, nous on a fait un bac plus 5, lui il se ramène, il a le certificat d'études. Alors c'est sûr qu'ils vont faire tout leur possible pour que ce gars au certificat d'études, il ne monte pas dans les... Alors là, tu vas voir tout le monde contre toi. Bon, donc si la personne est suffisamment, on va dire, intelligente, et qu'elle arrive à cerner tout ce qui se passe, tous les coups bas, tous les trucs... pas de problème, elle progressera, mais elle ne pourra progresser qu'à la seule raison, non seulement qu'elle montre qu'elle est la meilleure, enfin qu'elle fait un taf d'enfer, mais qu'elle est capable de sortir de ça. Parce que ce qu'on demandera à un PDG de multinationale, c'est pas ce qu'on demandera à un petit directeur local du supermarché. Hein. C'est pas la même gestion, c'est pas la même truc. Et on sait que plus on monte dans les étages, et plus c'est corrosif et requin. Hein. C'est clair. Ici, là, si tu es en concurrence avec le contremaître, bon, ça, à la rigueur, ça viendra au point, tu lui casseras la gueule, il crèvera les pneus de la voiture. On est d'accord. Quand tu es un PDG, je vais te dire, tu t'amuses plus à casser la gueule de l'autre ou à lui crever les pneus de la voiture. Tu feras surtout rien de tout ça. Ben, alors derrière, ça se verra pas, mais c'est mortel. Ben, c'est fait pour. Hein. D'accord. Donc, quelque part, un individu ne peut progresser dans une chose qu'à la seule condition, aux seules conditions, que, un, d'abord, il est conscient de ce qui se passe. Parce que plus il est conscient de ce qui se passe, plus il voit tous les trucs qui lui arrivent. Et plus il va vouloir monter, aussi à avoir un degré de responsabilité, et plus il va falloir qu'il soit vigilant à toutes les mines antipersonnelles qui sont placées sur son chemin. S'il ne voit pas ça, il sera explosé, tôt ou tard. Ben, c'est aussi simple que ça. Donc, j'ai bossé comme consultant auprès de quand même pas mal de grosses boîtes. Je peux vous dire que tout ça, c'était au quotidien, parce qu'un consultant, il vient, puis il dit, ah, ok, c'est qui le leader dans le temps, c'est qui bouffe, c'est qui envoie les flèches, et combien de mines antipersonnelles ils ont posées. Et après, tu regardes, et tu vois, tu dis, ah oui, il y a celui qui a fait ça, celui qui a fait ça, celui qui a fait ça, puis tu regardes toutes les interactions, tous les trucs, et tu dis, tu vis au quotidien et tu regardes. Puis en discutant un petit peu avec eux, tu te taquines, puis tu dis, oh, tiens, là, il y a un truc caché, il ne le dit pas, mais je sais. Et donc ça vous dégage une expérience de la nature humaine et de combien ils peuvent vous faire des choses. Mais si vous n'avez pas cette vigilance, si vous n'êtes pas capable, parce que vous y allez uniquement avec votre mental, vous pensez qu'en suivant des cours de PNL, vous allez vous en sortir, vous êtes mort déjà d'avance. Il faut être extrêmement, on va dire, ça j'avais dit avant, empathique. C'est-à-dire que d'être à la place de l'autre. C'est-à-dire que vous dites rien, vous souriez, vous entendez tout ce qu'il raconte, mais boum, 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 vous avez tous les capteurs, doudou, 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 et vous savez qu'il est en train de vous raconter des conneries. Vous savez qu'il vous cache quelque chose. Et tac, 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 tac. Mais si vous n'avez pas ce côté empathique réel, vous n'avez aucune chance. Pas moi, c'est un petit plus, un petit bonus pour vous dire. Et donc forcément, vous découvrez la nature humaine et les programmes qu'ils ont derrière. C'est clair. Après, vous apprenez, vous dites, attends, un ricain, ah, c'est un ricain, ben, ça. Oh, vous dites, ah ouais, mais ça joue pas du tout comme un japonais, ça. Hein. Ah, puis, bah tiens, là, l'allemand, bah, ça joue pas du tout comme les puis c'est-à-dire qu'à chaque culture, à chaque civilisation, vous devez découvrir les programmes de base qu'ils ont. Donc, ça demande, je vous avouerai que c'était passionnant. C'était passionnant de voir toutes ces différences de pensée dans le truc. Pourtant, l'objectif final, c'est toujours le même. Le petit ego qui gagne, et je m'en fous plein les poches. L'objectif, c'est toujours le même. Hein. Mais, quelque part, je trouvais ça extrêmement instructif. J'ai beaucoup appris pendant toutes ces années-là, et vous allez me dire, c'est pas du hasard. Si on veut faire avancer, l'humain en tant que marcheur, le faire avancer sur le truc, vous devez savoir quelles sont toutes les mines interpersonnelles qu'ils ont placées partout. Parce que si vous ne faites pas ça, ça foirera de toute façon. Alors, j'ai parlé de ça, bah, c'est bien parce que j'ai pas parlé du sujet que je voulais parler, mais bon, c'était l'introduction, hein, c'est pas grave, de toute façon vous aimez ça, je sais. C'est ce qui fait tout mon charme. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, je continue la musique parce qu'après tout, j'ai pas dit ce que je voulais dire. Hein. Merci, allez, au revoir.